Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, la gauche est-elle toujours aussi mal à l'aise avec l'immigration ? Ce n'est même pas un parti, c'est un mouvement à l'intérieur d'un parti. Ce n'est même pas en France, c'est en Allemagne. Pourtant, le lancement d'Aufstehen au début de ce mois bénéficiait chez nous d'une importante couverture médiatique. C'est que la façon dont il est présenté s'apparente à un oxymore, un mouvement de gauche anti-immigration. Alors Aufstehen, traduisait « debout », est hébergé par Die Linke, traduisait « la gauche ». Sa présidente, Sarah Wagenknecht, appelle à en finir avec la bonne conscience sur l'immigration. Une frontière ouverte à tous, c'est naïf, dit-elle. Plus de migrants économiques signifie plus de concurrence pour décrocher des jobs dans les activités à bas salaire. Alors un tel discours à gauche n'est pas inédit. Il est souvent rappelé qu'en France, le parti communiste de Georges Marchais s'opposait au début des années 80 à l'immigration dans un contexte de hausse du chômage. Mais il est vrai que cette approche est devenue plus inaudible au fur et à mesure de la montée du Front National. Aujourd'hui, à la faveur des élections européennes, la question migratoire semble devenir incontournable pour l'ensemble de l'échiquier politique, y compris donc pour le PS, pour la France Insoumise, pour les Verts ou encore pour Génération. Mais quel discours tenir ? Et la gauche est-elle toujours aussi mal à l'aise avec l'immigration ? C'est le sujet du soir en compagnie de trois invités. Catherine Vittel de Vanden, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous êtes spécialiste d'immigration internationale. Je renvoie à votre dernier ouvrage aux presses de Sciences Po, c'était l'an dernier. Faut-il ouvrir les frontières ? Pour discuter avec vous, Laurent Bouvet, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, cofondateur du Printemps républicain. Vous avez publié, vous aussi, l'an dernier, aux éditions Le Mieux, La gauche zombie. Et puis notre troisième invité journaliste, il s'agit de Pauline Grohl, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à Mediapart, où vous couvrez la gauche, ou peut-être plutôt les gauches.
Les gauches.
Ce sera important de faire cette distinction, sans doute aussi sur cette question de l'immigration. Cette question de l'immigration, pour commencer la discussion, est-ce qu'on peut dire avec une quasi-certitude que ce sera, si ce n'est le grand sujet, en tout cas un des grands sujets de la campagne des prochaines élections européennes, Catherine Vittel de Vanden?
Alors, sans doute, puisqu'il y a eu beaucoup de maladresses qui ont été commises dans le passé, il ne faut pas oublier qu'effectivement, de plus en plus, on voit d'un côté une gauche qui aspire au pouvoir, qui est très prudente sur les thématiques de l'immigration, issue du Parti Socialiste. Il ne faut pas oublier la déchéance de nationalité d'il y a 2 ans, d'un autre côté, et un très grand malaise pour des gens qui ont surtout travaillé sur le social à aborder la thématique de la diversité et à dialoguer sur la laïcité. Parce que à l'intérieur de la gauche, tout le monde n'est pas d'accord entre des gens qui sont plus pour des approches diversité et d'autres qui sont plus pour des approches, disons, jacobines. Et à l'intérieur de cette gauche, on a aussi, hors du PS, des gens qui n'ont pas nécessairement ou qui n'ont plus d'aspiration immédiate au pouvoir, Parti communiste et les Verts, qui eux sont plus courageux sur le droit de vote local des étrangers, abandonné par le Parti socialiste, on en parle depuis 30 ans en France, et sur d'autres thématiques, alors, notamment concernant les réfugiés.
On verra, si vous voulez bien, Catherine Vittel de Vanden, dans le détail, justement, comment se positionnent les différentes parties de gauche en France sur cette question. Mais déjà, donc, à première appréciation générale, oui, dites-vous, l'immigration va assurément être un sujet important de cette campagne des européennes. Est-ce que vous partagez, vous aussi, cette idée, Laurent Bouvet, sachant quand même que c'est ce qu'on disait aussi de la précédente présidentielle en France.
Oui.
Or, la question migratoire a été assez discrète, finalement.
Oui, alors, d'abord, oui, effectivement, je pense que ça va être un des enjeux de la prochaine élection de la campagne européenne et des européennes au mois de mai, juin prochain. Je pense que l'immigration en tant que telle, la question migratoire, les frontières, est-ce qu'on accueille ou pas, combien ou comment, est liée à d'autres questions. C'est ce qu'on pourrait appeler les 3 I, c'est-à-dire immigration, intégration. Et la France a beaucoup plus un problème d'intégration qu'un problème d'immigration, si on regarde par rapport à l'Allemagne, à la Suède, etc. Les problématiques dans les différents pays ne sont pas exactement les mêmes, hein. Il faudra peut-être y revenir, et de manière beaucoup plus générale, les questions d'identité. Et vous avez raison, la dernière élection présidentielle en France, pour des raisons à la fois conjoncturelles, d'élimination de ceux qui, dans le débat, portaient des différentes familles politiques, Le Pen, qui n'a pas fait campagne là-dessus, puisqu'elle a choisi plutôt l'euro, le Frexit, etc. Fillon, qui avait fait sa campagne primaire là-dessus, qui a été, évidemment, ce qui lui est arrivé pendant la campagne. Manuel Valls, qui portait au sein de la famille socialiste, etc., ces enjeux, qui a été éliminé à la primaire. Donc, on avait des candidats qui étaient plutôt sur des enjeux économiques, économicistes. Le seul qui s'est décalé un peu, notamment par sa campagne présente, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a introduit des éléments qui ont, on y reviendra peut-être, qui l'ont été reprochés, d'ailleurs, y compris dans sa propre formation au sein de la gauche radicale, beaucoup l'ont traité, par exemple, de nationaliste, et qui l'ont été reprochés, mais lui a introduit des éléments. Mais ça n'a pas suffi pour en faire un grand thème. Or, on voit bien que c'était un peu l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire que tout le monde a tourné autour en disant, bon, finalement, l'économie, voilà, les enjeux. Mais il revient aujourd'hui par la question posée depuis la crise migratoire de 2015, par l'environnement de ces mouvements néo-populistes qui arrivent. On n'a pas parlé de l'Italie, Orban, etc. Donc on voit bien que ça va être un grand enjeu. Et je finis juste là-dessus, pardon, parce que tous les politiques français, le président de la République en premier chef, se positionnent par rapport à leur future campagne européenne sur cet élément. On a bien vu que le président Macron allait se positionner comme l'adversaire de Viktor Orban, hein, sur une ligne antagoniste sur cette question.
Pauline Grolle, vous qui suivez donc les gauches en France, hein, essentiellement, est-ce que aujourd'hui, bah, pour reprendre l'expression de Laurent Bouvet, l'immigration continue à être cet éléphant au milieu de la pièce, mais autour duquel on tourne sans oser trop s'en approcher, ou bien est-ce que vous observez justement peut-être une volonté de, et peut-être aussi une nécessité d'ailleurs, d'aller sur ce terrain-là désormais, et de clarifier peut-être un certain nombre de positions?
Alors, bah, je pense qu'il y a déjà l'épisode de l'Aquarius qui a quand même marqué tout le monde, en tout cas en France et en Europe. Il y a l'Italie, Salvini. Donc ce sujet est vraiment au cœur de certaines préoccupations, on va dire. Mais il y a aussi, globalement en Europe, la montée des extrêmes droites. Et on a l'impression que la gauche, enfin que les gauches européennes sont un peu dans un mouvement de panique face à cette montée terrible des extrêmes droites. Et du coup, certaines ont décidé de rentrer un peu dans un mouvement de triangulation et donc de ne pas laisser le terrain de l'immigration à l'adversaire et à s'en emparer. Donc c'est peut-être ça qui est nouveau cette fois-ci. Sachant qu'il y a aussi donc le phénomène Wagenknecht qui a un fort écho en France.
Donc je rappelle, hein, voilà, c'est la coprésidente de ce mouvement Hofstede au sein de Die Linke, voilà, avec un discours assez ferme, on va dire, sur l'immigration, hein, même si il y a quand même de fortes différences avec, par exemple, ce que peut être l'AFD toujours en Allemagne.
Tout à fait, quand même. Hein. Alors vous avez, on peut présenter ça comme la gauche anti-migrant. Je pense que c'est pas vraiment ça. Sarah Wagenknecht pose le débat parce qu'elle sait, enfin, parce qu'elle veut essayer de récupérer les classes populaires, en fait. Hein, donc c'est ça son objectif. Donc il y a une, disons qu'il y a une certaine partie de la gauche qui est vraiment persuadée que les classes populaires sont acquises à l'extrême droite. Et donc, il faut aller les chercher sur ce terrain de l'immigration.
Alors, je trouve intéressant le terme que vous avez utilisé, le terme de triangulation. C'est quelque chose qui a été utilisé, par exemple, pour évoquer la stratégie qui peut être celle, justement, des mouvements d'extrême droite. En France, le Rassemblement National, qui est allé beaucoup sur les thématiques économiques et sociale, c'est-à-dire qu'elle est sur des thématiques qui étaient plutôt, a priori, de gauche. Est-ce que ça signifie, pour vous, trois, Catherine Vittel de Venden, Laurent Bouvet et Pauline Grolle, qu'il y a une forme peut-être de responsabilité aujourd'hui pour la gauche, en tout cas de nécessité, si elle veut regagner une partie de son électorat populaire, à aller sur ce terrain-là, sans quoi elle n'y arrivera pas?
Moi, Catherine Vittel de Venden. J'en suis pas persuadée, parce que dans les mouvements associatifs qui portent quand même divers gauches, mais aussi des gauches extrêmes, qui sont très actifs. Faut pas oublier les collectifs, les mouvements, tout ce qui s'est créé autour des thématiques de l'immigration depuis 10 ans, qui sont des gens de gauche convaincus, etc. Je pense qu'ils risquent, la gauche, et notamment ça a été le cas du Parti Socialiste, risque de perdre une partie de cet électorat s'ils ont un discours ramasse-tout du côté de certaines formes de populisme. Et c'est encore plus vrai chez Mélenchon et quelques autres. Donc en fait, je crois qu'il faut d'un côté voir les stratégies partisanes, puis de l'autre côté les militants. Et les militants de gauche, beaucoup appartiennent à toute une série de mouvements, parce qu'ils ont une culture militante, associative, etc., qui va à l'encontre de ce qu'on pourrait appeler les populismes.
Vous qui devez en croiser assez régulièrement, j'imagine, Pauline Grohl, des militants, vous
oui,
partagez
alors,
justement ce que dit Catherine Vittel de Vendel.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de la France Insoumise, par exemple, il y a vraiment deux gauches. Hein, on l'a vu par les récentes interviews de Georgi Kuzmanovic et de Clémentine Autain à l'Obs. Donc, ils n'étaient pas au courant hein, l'un l'autre qu'ils répondaient aux mêmes questions au même moment. Mais donc, on a vraiment vu qu'il y avait deux positions antagonistes sur la question de l'immigration et sur cette fameuse Sarah Wagenknecht qui clive beaucoup. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il y a une, enfin, il y a la question de la triangulation, mais il y a aussi une manière d'y aller. Et ce qu'on peut constater, c'est que et chez Wagenknecht et aussi un peu moins hein, chez Mélenchon, c'est pas une triangulation sur des questions identitaires, mais en fait c'est une triangulation un petit peu plus subtile sur la question économique qui est, enfin, qui ressortent de Jaurès. Et puis effectivement, il y a toute une tradition à gauche. Sur cette question-là, mais ils ne vont pas quand même sur le même terrain que l'extrême droite, et du coup ça peut créer des discours un petit peu contradictoires en interne, parce que on va entendre Jean-Luc Mélenchon la semaine aux universités d'été de la France Insoumise à Marseille, qui dit à la fois il n'y a pas d'invasion. Donc ça, c'est un discours de gauche traditionnel. Et à la fois, il y a un problème parce que les migrants, enfin, le patronat utilise l'immigration pour faire baisser les salaires. Donc c'est quand même légèrement contradictoire. S'il y avait vraiment un risque de baisse des salaires, ce serait parce qu'il y aurait énormément de migrants qui arriveraient.
Laurent Bouvet.
Oui, il y a une... En fait, il y a un lien très, très étroit entre les préoccupations sociales... de pouvoir d'achat dans les pays comme la France où il y a déjà un chômage de masse, un chômage durable qui touche particulièrement les catégories populaires et les questions au sens général immigration, identité, intégration. Le lien, c'est précisément les catégories populaires. C'est-à-dire que les catégories populaires fragilisées économiquement, notamment à la suite de la crise de 2008, dont les effets en chaîne. On a vu la Grèce, évidemment, comme un exemple particulièrement dur. Mais enfin, partout en Europe, et pas qu'en Europe, mais partout en Europe, il y a eu des effets très, très durs dans la population, avec un accroissement des inégalités, avec des gens qui sont tombés vraiment dans une forme de misère soutenue par les filets de sécurité sociale minimale, etc. Donc, qui venaient à la suite de politiques, en plus de baisse des dépenses publiques. Enfin, tout ça est très connu. Mais donc, ces gens-là, ce sont eux les plus sensibles. Quand on rapproche dans les différents pays les enquêtes, ce sont eux les plus sensibles à l'ouverture des frontières aussi. Pas seulement pour le capital, les biens, les services, mais aussi, évidemment, pour les personnes et les migrants. Et
ça veut dire que se contenter d'un discours sur des questions économiques et sociales, ça ne suffit
pas. Ah, bah, bien sûr que
plus,
non. Si,
ça
si,
ne suffit pas.
Si ça suffisait, la gauche ne serait pas en Europe dans l'état où elle est. Je ne parle même pas de la social-démocratie qui aurait trahi les catégories populaires sur le plan social, mais la gauche radicale. Or, nulle part en Europe, la gauche radicale n'est en position, comme elle l'a espéré pendant quelques années, ces dernières années, de remplacer la social-démocratie comme force d'alternance. Ça, ça n'existe pas. Donc, il y a évidemment un enjeu dans ces catégories populaires qui pensent ensemble, parce que là, nous, de manière analytique, on peut séparer les ordres, mais qui pensent ensemble la question sociale et la question dite identitaire. Et sur, effectivement, le remplacement de la main-d'œuvre, dont on voit, les études économiques montrent que c'est pas tellement le cas, finalement, qu'il n'y a pas de substitution des migrants récents, sauf sur des emplois qu'occupent très peu les nationaux, sur les emplois de service, de nettoyage, de service à la personne, pour les enfants, pour les personnes dépendantes, etc. On voit bien que tout cela, puisque c'était un gros enjeu en Allemagne, hein, quand Angela Merkel a accepté l'ouverture des frontières en 2015, mais c'est pas tellement là-dessus, c'est sur une question que moi j'ai rassemblée dans l'expression qui a été parfois mal comprise, pour ceux qui ne sont pas donné la peine
d'insécurité culturelle.
Voilà, d'aller au fond, insécurité culturelle, qui est d'abord une insécurité sociale, j'avais repris le terme d'un de mes maîtres Robert Castel, et qui devient culturelle parce que la culture, c'est pas juste l'identité, on est chez nous, etc. C'est aussi, je veux continuer à vivre, évidemment chez moi, mais je veux continuer à vivre de mon travail, je veux continuer à vivre, que mes enfants puissent vivre correctement, etc. Et là, on a un mixte des deux, et la gauche économiciste, on pourrait dire, mais les libéraux aussi économicistes ne sont pas équipés aujourd'hui, théoriquement et intellectuellement, pour répondre au défi populiste qui, lui, met le paquet avance dans ce ventre mou, si vous voulez, sur le social et le culturel. On le voit bien, notamment en Italie.
Est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée, Catherine Mittel-Devenden, qu'il y a un manque d'équipement et qu'il y a une difficulté pour une partie de la gauche, et notamment peut-être la gauche radicale, à penser simultanément la question sociale, la question de l'immigration, de l'identité, comme en parle Laurent Bouvet?
Alors effectivement, je pense que, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, une grande partie de la gauche a surtout mis l'accent pendant des années sur la dimension sociale. Et la thématique migratoire, c'était un peu marginal dans ces réflexions, et beaucoup de membres des partis politiques de gauche étaient très mal à l'aise sur la thématique de la diversité, du multiculturalisme dans certains pays européens, sur la thématique, on n'est pas clair en France par exemple, sur la thématique de la laïcité. La laïcité, ça peut être aussi bien défendu par l'extrême droite que par une gauche ratsoc, si j'ose dire, très anti-expression du religieux. Donc il y a des tas de thématiques sur lesquelles la gauche n'est pas au clair depuis des années, ce qui, à mon avis, l'a affaiblie et ce qui l'a rendue très faible pour des propositions positives concernant les thématiques migratoires. Et les plus audacieux, c'est les Verts en la matière, hein, parce qu'eux, ils n'ont pas d'ambition électoraliste forte.
D'ailleurs, je suis allé regarder sur le site d'Europe Écologie des Verts.
De nouveaux droits, tous les thèmes, droit de vote, frontières, etc. Ils sont à fond pour autre politique.
Ça ne les aide pas politiquement.
En tout cas, c'est vrai qu'ils ont une ligne claire. On peut lire par exemple sur leur site, sur la question de l'immigration. L'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Mais
oui,
justement,
mais
Catherine Mittel-Devenden, est-ce que c'est un manque de clarté à gauche ou bien est-ce que c'est un défaut d'analyse, si ce n'est sur le fond, en tout cas, du point de vue de l'impact électoral que peut avoir le discours? Autrement dit, est-ce que finalement la gauche n'a pas plus péché par un discours finalement très positif en disant l'immigration c'est une chance, l'immigration ça ne pose pas de problème, plutôt que par un manque de clarté et des hésitations là-dessus?
Des hésitations, parce qu'en 81, la gauche se démarquait précisément de la droite sur la liberté d'association. Elle annonçait le droit de vote local des étrangers, ce qui était le cas à nouveau pour les présidentielles de Ségolène Royal et de François Hollande. Finalement, la gauche a reculé, socialiste a reculé là-dessus. Je pense que c'est une frilosité. Une frilosité. L'analyse, elle y est. Tous les gens savent que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Il y a des quantités de travaux depuis 30 ans qui ont été faits là-dessus. La gauche,
c'est vrai que tous les spécialistes de cette question le disent. La quasi-totalité. Et pourtant, ça n'a
pas. Mais
ce
n'est pas juste un problème de même si je suis d'accord sur les travaux économiques, sur le fait avec des agrégats, ça rapporte plus que ça ne coûte. Ok. Mais ça n'épuise pas le sujet. C'est bien le cœur du problème.
Il y a beaucoup d'autres choses.
On a beau dire, notamment aux catégories populaires dont on parlait tout à l'heure. Écoutez, c'est formidable. L'immigration va vous aider. L'ouverture des frontières aux capitaux, biens et services et aux personnes va vous aider. Ça sera mieux pour vous, etc. Ces gens qui ne sont pas ni a priori racistes, ni a priori hostiles au monde, etc. Parce que le côté ouvert, fermé, les pauvres, les blancs du périurbain fermés, les analyses de Guyot, etc. Ça a ses limites. Non, ils sont pas plus il y a des racistes, ok, bon, ça d'accord. Mais le problème, c'est que depuis des années, j'ai dit la crise de 2008, j'ai été gentil, depuis des décennies, ils ne voient pas l'effet positif de l'ouverture des frontières. Et ils mettent les migrants avec l'ouverture des capitaux, avec la baisse certainement du coût d'un certain nombre de biens qui peuvent plus facilement se payer aujourd'hui qu'on ne pouvait dans les catégories populaires le faire avant, je pense à tous les biens technologiques, etc., mais en même temps avec un pouvoir d'achat qui baisse et des biens essentiels, etc. On a parlé à 80 km/h de la voiture, etc., où là, il y a plus moyen de vivre comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez, leur tenir un discours de rationalisation économiste en disant, écoutez, vous êtes bien gentil, mais ça rapporte l'immigration, alors que voit que l'ouverture des frontières, ça les plombe, pardonnez-moi l'expression, ça augmente leurs difficultés depuis des années et des années. C'est
Catherine
ça la question politique. C'est
là-dessus que se font des populistes. Et ensuite, promis, je reviens vers vous, Pauline Gaulle. Qu'est-ce qui fait que ce discours rationnel et scientifique, disons, n'imprime pas électoralement?
Je pense qu'il y a un écart entre guillemets le savant et le politique. Le savant sait tout ça, il le dit mais c'est pas écouté. Les politiques le savent peut-être mais ils osent pas le dire. Je crois qu'il y a des quantités d'idées reçues, il y a eu des plusieurs livres qui sont sortis là-dessus, qui analysent les unes après les autres toutes ces idées reçues qui circulent depuis 20 ans sur les sujets, mais les politiques n'osent pas aller à l'encontre de ce qu'ils croient être l'opinion publique, parce que ce qui guide leurs décisions, c'est pas ce que disent les chercheurs, c'est les sondages et la montée de l'extrême droite. Donc c'est ça le problème en réalité. Et c'est ça qui occupe l'essentiel du terrain. En même temps, ces gens dont vous parlez, Laurent Bouvet, ils sont contents que leurs enfants bénéficient d'Erasmus, de passer leurs vacances dans des pays en traversant les frontières, etc.
Je suis pas certain que les gens dont on parle aient beaucoup d'enfants qui bénéficient d'Erasmus.
Certains quand même.
Les étudiants qui bénéficient d'Erasmus, que je connais bien.
Oui.
ce sont pas nécessairement des gens issus des catégories populaires
ou de traverser la frontière quand ils sont au chômage chez eux, ce qui est plus fréquent aussi.
Pauline Grolle.
Moi, ce que je suis complètement d'accord avec vous, Catherine, c'est que je pense qu'en fait, il y a vraiment intimement une partie de la gauche, que ce soit la gauche républicaine, on va dire, et en fait, pense sincèrement que les classes populaires sont ce que je disais tout à l'heure, acquises à l'extrême droite. Mais je trouve qu'en fait, c'est parce qu'en fait, elles les connaissent pas très bien. Et c'est qu'en fait, elles sont complètement déconnectées du terrain, où en réalité, les classes populaires sont pas juste les petits blancs en insécurité culturelle. Mais il y a des gens qui vivent ensemble dans les cités HLM. Alors le problème, c'est que ces gens ne votent pas.
Exact.
Et je pense que par exemple, il y a eu aussi le fait que Jean-Luc Mélenchon, ce qui s'est passé en 2012... je pense qu'il y a eu une sorte de traumatisme à la fois quand il a fait sa campagne à Hénin Beaumont et qu'il a vraiment vu des gens qui étaient très très touchés par l'extrême droite et qui vivaient dans des conditions insupportables. Il y a eu aussi ce discours de Marseille en 2012, un discours très, une ode au cosmopolitisme, où il disait d'ailleurs l'immigration n'est pas un problème. Et après, il y a eu une perte de vitesse dans les sondages. Donc, si vous voulez, ils ont associé...
Une semaine.
C'est vrai que le Mélenchon sur l'immigration en 2012, il est assez différent de celui de 2017.
Oui,
il n'est pas radicalement différent.
Je pense qu'ils se sont dit...
De Marseille. Ouais. Il a fait un discours très personnel ce jour-là sur les plages du Prado.
Et vous l'avez interviewé d'ailleurs pour Mediapart, Pauline Grolle, sur cette question de l'immigration, parce qu'on lui reproche, y compris d'ailleurs en interne, au sein de la France insoumise, quelques voix, une forme de... Alors là aussi, peut-être manque de clarté ou certaines ambiguïtés.
Alors,
qu'est-ce qui répond à ça?
Je pense qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon a tout intérêt à rester dans l'ambiguïté, puisqu'on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, et qu'il le dit dans l'interview à Mediapart, il doit tenir deux fers au feu, c'est-à-dire les classes populaires dont il est persuadé qu'elles sont sensibles aux thèses du Front National, et la gauche, ce qu'on peut appeler la gauche morale. Ce sont des gens qui sont peut-être pas issus forcément des milieux populaires, mais par exemple qui sont très investis dans le bénévolat auprès des migrants et qui voient aussi le point de vue des migrants. C'est-à-dire qu'en fait, les migrants, c'est pas du tout l'image qu'on peut s'en faire médiatiquement, mais que ce sont des gens qui ont énormément de mal, qui vivent avec 3 francs 6 sous, qui n'ont pas de logement, qui ne trouvent pas de travail facilement, encore moins que tout le monde. Et donc, il y a toute cette gauche-là, que Jean-Luc, un peu plus classe moyenne, on va dire, que Jean-Luc Mélenchon doit aussi garder, et notamment en vue des européennes. Donc là, ce qui est en train de se passer à la France insoumise, c'est que Jean-Luc Mélenchon est en train un peu de désavouer son aile la plus sulfureuse, on va dire, avec ce fameux Georgi Kuzmanovic qu'il a désavoué dans l'interview, suite à l'interview de l'Obs.
Voilà, alors là, il faut que je fasse juste une petite parenthèse pour que tous nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. Donc, cet orateur de la France insoumise, un orateur, ça veut à peu près dire porte-parole, qui dit ceci dans l'Obs: la bonne conscience de gauche empêche de réfléchir concrètement à la façon de ralentir, voire d'assécher les flux migratoires. Plutôt que de répéter naïvement qu'il faut accueillir tout le monde, il s'agit d'aller à l'encontre des politiques ultralibérales. Lorsque vous êtes de gauche et que vous tenez sur l'immigration le même discours que le patronat, il y a quand même un problème. Et on apprend aujourd'hui dans Le Monde qu'à la demande de Jean-Luc Mélenchon, ce Georgi Kuzmanovic a été déchu de son titre de porte-parole. Il reste à la France Insoumise.
Mais il n'était pas conseiller sur ces questions.
En tout cas, il n'est pas, conseiller.
Il a mis la distance, en tout cas.
Il s'occupe de l'international, lui, normalement. Je crois qu'il est porte-parole à l'international.
Voilà. Bon, en tout cas, là aussi, on sent bien qu'il peut y avoir ce malaise.
Oui, bien sûr.
Laurent Bouvet.
Le Mélenchon, effectivement, ce qui a été rappelé pour 2012 est intéressant, puisque le week-end où il fait son grand discours de Marseille, là, sur les plages du Prado, où il y a énormément de monde, il est à touche-touche avec Marine Le Pen dans les sondages, autour de 14-15. Et puis, quand le premier tour arrive une semaine après, il y a quasiment 7 points d'écart. Hein. Donc là, il y a eu une question. Et moi, d'ailleurs, j'avais discuté avec des gens de la France insoumise, enfin, ce qui vient après la France insoumise, sur justement l'hypothèse de l'insécurité culturelle. Alors certains acceptaient, d'autres non, donc c'est très intéressant. Mais effectivement, il a une difficulté, mais tous les partis ont cette difficulté. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé du Parti Socialiste avec un Emmanuel Morel qui lui aussi porte, il est dans l'aile gauche du PS sur les plans économiques, il est proche de Mélenchon d'ailleurs, il se demande s'il va rejoindre Mélenchon, mais sur des questions de laïcité, d'immigration, etc., c'est un républicain au sens beaucoup plus classique du terme. Donc on a un problème dans tous les partis, effectivement, entre là pour le coup, pour le Mélenchon, c'est une aile plutôt souverainiste, hein, dans la vision assez classique, et puis une gauche plutôt multiculturaliste, etc. Le problème des catégories populaires, vous avez raison de dire que c'est pas parce que on appartient aux catégories populaires qu'on vote Le Pen, bien sûr, ça n'a aucun sens. Le premier parti de France, c'est le parti de l'abstention. Et en particulier, évidemment, si on ventile sur des catégories populaires, les ouvriers, les employés, au sens de l'INSEE, bien évidemment. Mais la question qui se pose, c'est pas celle du petit blanc opposé, c'est pour ça que les limites de la géographie sociale et surtout politique du Christophe Guilly sont évidentes, c'est que l'insécurité culturelle, elle touche tout le monde. C'est-à-dire qu'elle touche des catégories populaires comme des catégories moyennes, de gens qui sont issus eux-mêmes de l'immigration. C'est pas des petits blancs, c'est des gens qui sont issus de l'immigration, qui eux sont déjà intégrés, qui ont des difficultés, qui veulent que leurs enfants réussissent. Des gens qui envoient précisément leurs enfants, pas dans les grandes écoles, mais quand même à l'université, qui sont de la deuxième, troisième génération d'une immigration maghrébine en particulier. Ces gens-là sont eux-mêmes dans une insécurité culturelle, pas par rapport, quand on parle d'insécurité culturelle, c'est pas par rapport
à quelqu'un qui voulait pas, qui hésitait à ressortir cette formule, vous l'aurez bien fait ce soir. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui.
Je la revendique, j'ai écrit un livre dessus, mais il faut quand même assez lire aussi ce que les gens écrivent. C'est, ils revendiquent, non pas par une opposition ethno-raciale, etc., parce que bien souvent, ils sont effectivement issus d'une immigration qui peut être assimilée, que certains racialistes assimilent, hein, les noirs d'un côté, les blancs de l'autre, etc., mais simplement pour des raisons d'impossibilité qui sont aussi présentes dans la recherche, en sciences sociales, très peu en France, mais dans beaucoup de pays. Je pense notamment à un article fameux, mais il n'y a pas que lui, de Robert Putnam, sur la difficulté de l'intégration quand il y a trop de diversité sociale et culturelle. Que ça pose une question, qu'il y a un écart qui se creuse statistiquement sur un certain nombre d'items, et qu'il y a une difficulté et qu'il faut, et c'est ce que disent les sociodémocrates danois aujourd'hui, que pour rester unis et avoir un bon niveau de protection sociale, il n'est impossible de faire entrer trop de migrants de l'extérieur qui ont des niveaux d'éducation, des niveaux de compétences professionnelles, des niveaux de compréhension culturelle qu'il va falloir mettre du temps pour les éduquer, faire parler la langue, etc. Et donc, ça pose un problème de cohésion sociale. On est là dans un ensemble. Hein. On ne peut pas tout dissocier en disant c'est comme ça ou ceci. Bah, c'est ça qui est important.
Catherine Vittel de Vanden.
Une histoire, j'aurais tendance à dire que se racontent aujourd'hui les États et parfois les politiques avec l'idée que l'homogénéité est le rêve d'une société qui fonctionne bien. Et ça, c'est une idée fausse d'ailleurs, parce que tous les grands empires et les grands États, quand même, les États-Unis entre autres et beaucoup d'autres, la Russie autrefois et après aussi, et puis l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie ont été des États multiculturels qui avaient un niveau de production culturelle énorme. Si on voit le nombre de prix Nobel à l'université de Vienne avant 1914, c'est quand même impressionnant. Donc l'idée que l'homogénéité est la clé du bon fonctionnement du vivre ensemble est une idée fausse, qui fonctionne beaucoup dans des pays comme l'Europe centrale et orientale d'aujourd'hui, par exemple, avec le rêve d'un pays homogène. En général, comme quand il ne se passe rien, c'est là que c'est homogène.
Vous dites homogène du point de vue ethnique, ethno-racial,
social aussi.
Mais c'est pas ça. La question, c'est pas un problème de c'est pas parce qu'on serait le Japon où il y a très très peu d'apports étrangers, etc., une société véritablement homogène. bien sûr, mais ça s'est fait, vous le savez, récemment. Mais c'est pas ça, cette question. La France n'est pas un pays ethniquement homogène, ça n'a pas de sens. C'est simplement une cohésion sociale et culturelle qui est une cohésion qui repose sur pas trop d'inégalités, pas trop de distanciation sociale, pas trop de différenciation territoriale entre des territoires éloignés, etc.
C'est encore aujourd'hui.
Mais oui, mais ça marche pas. Le problème, c'est que cet exemple des empires n'a pas de sens. C'était pas des démocraties. Si vous me dites que l'empire ottoman, avec son système des milliettes, des communautés arméniennes, regardez ce qui est arrivé aux Arméniens et aux Grecs dans l'empire ottoman, même aux Arabes d'ailleurs dans l'empire ottoman en partie. Regardez ce qui est arrivé à la Russie.
Donc, on est sur des exemples
historiques qui n'ont pas de sens par rapport juste pour à une société multiculturelle.
Laissons peut-être conclure Catherine Whittle de Vanden.
Les États-Unis quand même s'en sont pas si mal sortis que ça.
La situation des Noirs aux États-Unis.
Oui, je suis d'accord, mais Il y a beaucoup d'autres minorités. Et donc, c'est des pays qui ont quand même, de cette diversité, tiré beaucoup d'inventivité et aussi une certaine invention du vivre ensemble. Ça, c'est un premier point. L'autre chose sur laquelle j'aurais tendance à insister, c'est qu'aujourd'hui, tous ces États, ils inventent la thématique de l'identité. Et ça, je crois que c'est un construit, si j'ose dire. Un construit comme une identité qu'il faut protéger vis-à-vis de l'autre, etc. C'est nouveau. J'ai tendance à penser que c'est une pure invention politique qui coûte pas cher. Donc, c'est pour ça qu'ils produisent ça, parce qu'ils n'ont pas tellement d'autres choses à proposer. Tous ces partis qui sont axés sur la thématique identitaire, qui est très dangereuse, effectivement, mais qui est racoleuse. Donc, aujourd'hui, ils sont sur ces thématiques-là. Et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et l'Europe, beaucoup de pays européens sont aujourd'hui là-dessus parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer.
L'Europe est donc cette compétition électorale qui est en cours avec les prochaines élections européennes. Pauline Grolle, est-ce qu'il faut aussi comprendre aujourd'hui le positionnement, puisque je rappelle que notre sujet ce soir, c'est aussi la question qu'on pose, c'est est-ce que la gauche est toujours aussi mal à l'aise avec l'immigration, notamment la gauche française? Est-ce que les différences peut-être de positionnement au sein de cette gauche française s'expliquent aussi du fait de cette compétition à venir? C'est-à-dire il y a une clarification qui est rendue aussi nécessaire par le fait de pouvoir se distinguer et que peut-être que pour notamment le PS ou pour Génération de Benoît Hamon, avoir peut-être un discours un peu différent de celui qui apparaît du côté de la France Insoumise, ça peut aussi permettre de se rendre à nouveau visible, disons.
Alors bien sûr, et notamment pour le PS, mais le problème c'est que comme d'habitude, il est bien embêté par son héritage hollandais, parce que là, ils sont en train d'essayer de récupérer la gauche morale, on va dire, ils l'appellent comme ça en tout cas, sur ces questions sociétales, très ouverte, etc. De toute manière, sur la question sociale et économique, on n'a pas vu la différence vraiment avec Macron, avec la ligne Macron.
Mais sur la question de l'immigration, pareil, vous diriez, c'est-à-dire l'héritage hollandais, il est aussi compliqué à apporter.
Par exemple, sur la loi asile-immigration là, qui a été votée il y a quelques mois, le PS a été relativement offensif et ils ont fait d'ailleurs des choses avec la France insoumise qui a elle aussi été offensive pour améliorer le texte et faire que ce soit moins dur. Le problème, c'est qu'ils ont derrière eux le quinquennat Hollande avec l'affaire Leonarda, la déchéance de nationalité, le fait qu'il n'y a jamais eu autant d'enfermement d'enfants en centre de rétention que sous Hollande. Donc, comme d'habitude, le PS est bien embêté et doit gérer l'héritage hollandais.
Et vous, allez-y, je vous laisse terminer. Je bouge beaucoup dans le studio.
Et voilà, mais par contre, donc eux, ils sont un petit peu... toujours dans des paradoxes. Par contre, pour ELV, Génération, le NPA aussi. Alors là, c'est, enfin, le positionnement un peu ambigu de Mélenchon, c'est une aubaine, et même le PC d'ailleurs. Ça va faire le lien avec ce que vous allez diffuser. Et donc eux, ils tapent à bras raccourcis sur Mélenchon, quitte à caricaturer à la fois son positionnement et celui de Wagenknecht, parce que c'est aussi une aubaine électorale pour eux de se différencier sur ces questions-là.
Puisque vous lisez dans mes pensées, Pauline Grolle, je voulais justement vous faire écouter effectivement cette archive, alors qui circule beaucoup régulièrement, c'est celle de Georges Marchais. On est en janvier 1981, il est en meeting à Paris.
Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés.
Voilà, donc Georges Marchais, en janvier 1981. On est donc en pleine campagne pour l'élection présidentielle. On a beaucoup tendance à parler de bonne conscience quand on évoque la gauche ou les gauches sur les questions de l'immigration. Mais finalement, est-ce qu'on se rend pas compte, et à travers cet extrait et à travers ce que disait Pauline Groll par rapport au bilan, disons, du quinquennat Hollande, que quand la gauche est au pouvoir, finalement, cette bonne conscience, elle est beaucoup plus, comment dire, diluée dans une politique, alors qui est peut-être pas l'équivalent d'une politique de droite, mais enfin qui s'en rapproche quand même, Catherine Wittel de Vanden.
Alors elle est très frileuse, la gauche, quand elle est au pouvoir. Il y a des choses quand même sur lesquelles elle est peut-être, elle se distingue.
Tout dépend ce qu'on entend par frilosité, parce que la droite dirait frileuse parce qu'elle va pas assez loin.
Frileuse quant à politique de contrôle, elle est tout aussi sécuritaire, etc. Sauf que elle n'en fait pas nécessairement un discours idéologique. Et ça, je crois que c'est une grande différence entre la droite et la gauche. La sécurité.
Mais il y a une forme d'hypocrisie, voilà. C'est-à-dire elle le fait, mais elle le dit pas.
Voilà, il y a ça. D'autre part, la gauche a été très ambiguë et finalement a calé sur le droit de vote local des étrangers, qui est un débat, à mon avis c'est une erreur, y compris électorale, de 30 ans de débat, après l'avoir promis plusieurs fois, avoir retiré le projet à de plusieurs reprises. Donc ça, je crois que c'est une des erreurs de la gauche, parce que ça lui aurait apporté éventuellement un nouvel électorat, notamment de gens qui vivent depuis très très longtemps dans les banlieues, etc., et qui n'ont pas le droit de voter, et sur lequel finalement s'appuie l'extrême droite dans son discours xénophobe, puisque les gens ne votent pas pour réagir face à ce discours dans les banlieues populaires. Autre élément également qui fragilise la gauche, c'est la thématique de la laïcité, de l'islam, de la diversité, sur laquelle il y a une dissension très forte entre diverses tendances au sein de la gauche, et je crois que ça c'est un travail à faire de rassemblement qu'elle n'a pas fait.
Pauline Groll et ensuite Laurent Boulet.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi la question de la bataille culturelle qui a quand même été abandonnée, oui. Et ça fait 30 ans que le discours de l'extrême droite rentre partout dans son salon, par la télé, par la radio, enfin, donc on est quand même dans un bain d'une droitisation et d'un rapport à tout ce qui est à l'étranger, l'immigration, qui est quand même assez inquiétant. Et on a l'impression que la gauche, même si elle a un peu des réflexes, mais que la bataille culturelle n'a pas été menée. Et ce qu'on pourrait voir de... Enfin, ce qui pourrait se passer là, ce serait qu'une partie de la gauche reprenne cette bataille culturelle de long terme. Visiblement, je pense pas que ça va être Mélenchon, puisque il est dans une stratégie assez de court terme, et donc il est en train de choisir plutôt une triangulation dont je parlais au départ. Même si il est en train de sortir de sa stratégie populiste pour faire le rassemblement de la gauche, et du coup il est en train de se banaliser un peu dans son expression sur la question migratoire.
Laurent Bouvier. Alors,
oui, justement sur cette question, avec des mots qui ont été donnés. Par exemple, si on dit que l'immigration n'est ni une chance ni une menace, que c'est un fait. C'est un fait social, et je dirais même avec Marcel Mauss, c'est un fait social total. C'est-à-dire sur lequel on n'a pas beaucoup de prise, parce que l'immigration, on pense au dérèglement climatique, au futur. Il suffit de lire le livre de Stephen Smith sur l'Afrique, sur un certain nombre de il y a des enjeux importants de ce type. À partir du moment où on dit ça, est-ce qu'on est forcément du côté xénophobe de l'extrême droite? Vous voyez, enfin, là, il y a un problème. Par exemple, sur la loi asile-immigration, la droite était contre parce que ça n'allait pas assez loin, la gauche était contre parce que ça allait trop loin.
Donc, en même temps, je ne crois pas que quiconque affirmerait que c'est un fait social total, en tout cas important, soit taxé justement.
D'en tirer les conséquences politiques, c'est-à-dire ce n'est ni une chance ni une menace. Pareil pour l'identité. Ce n'est pas un gros mot en soi, l'identité. Quand on parle de l'identité de genre, quand on parle de l'identité d'une minorité, vous ne trouvez pas que c'est un gros mot? Donc il y a pas de c'est le problème de la gauche, de la désignation avec un certain nombre de termes, moi je l'ai vu évidemment avec insécurité culturelle, d'attribution morale à des termes qui posent des enjeux politiques et des débats politiques et qui doivent être tranchés politiquement par le combat culturel, ça je suis tout à fait d'accord, en disant ces termes-là sont interdits, ce sont des gros mots. Il n'y a pas de gros mots en politique, hein, et c'est bien le problème de la maîtrise du langage politique par la gauche aujourd'hui, dont elle pâtit énormément, y compris maintenant, depuis longtemps, dans les élections.
Est-ce que tous les mots peuvent être utilisés en politique? Est-ce qu'il y a une neutralité ou pas
des termes? Ça, voilà, réinviterait.
Ça mériterait franchement une autre discussion. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'avoir participé déjà à celle-ci. Catherine Whittle de Venden, Pauline Grohl et Laurent Bouvet, les références bibliographiques, les liens notamment vers Mediapart, puisque vous y travaillez, Pauline Grohl, c'est sur notre site internet franceculture.fr. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Ledoux, Antoine Dulcer et Guillaume Laguigné, à la réalisation Alexandre Fougeron, à la prise de son Jacques Hubert, à la dispute Arnaud Laporte.
Vous avez bien vu. Et dans 3 minutes, on parlera de littérature. Demain, le Club des idées aura pour thématique...
Le Parlement européen a-t-il enfin trouvé sa place?
On se retrouvera au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, comme tous les vendredis.